Chapitre 3 Hercule Poirot. La brève irritation de Maud, liée à son fils aîné, s'était évanouie. Elle avait réussi à se détendre et les vacances avaient ensuite adopté une vitesse de croisière tout à fait proche de la perfection. L'intendance nourricière était assurée par Thibault. Le matin, les trois jeunes prenaient leur petit déjeuner dans le jardin où il avait déposé des croissants et des pains au chocolat tout chaud sortis de la boulangerie. Il était à cette heure-ci déjà parti en compagnie de Maud pour une nouvelle journée de vacances. La vie n'était point trop complexe pour Delphine et les deux frères. Les bicyclettes proposées à la location étaient à deux pas, tout comme les voiliers mis à disposition sur le parking du yacht club. Il suffisait de traverser l'avenue de la plage pour faire affaire avec les moniteurs de l'école de voile. S'ils éprouvaient par hasard une petite faim en cours de journée, il leur suffisait d'ouvrir le réfrigérateur et de choisir parmi les plats cuisinés que le père avait pris soin d'entreposer sur les rayonnages. Il leur arrivait aussi de varier les plaisirs et de se décider pour un hamburger ou une pizza au centre de Kerbihan. Il n'était pas non plus exclu qu'un petit film retienne leur attention dans la salle de cinéma serrée entre une crêperie et une brasserie qui ne désemplissait pas. Thibault concevait et préparait les repas du soir. Il faisait les courses, il ne conduisait pas en raison de sa mauvaise vue et Maud assurait volontiers la fonction de chauffeur. Après le dîner, il était certes de bon ton, courtois et sympathique, que la famille au complet passe le début de la soirée ensemble. Un jeu de cartes faisait parfois l'unanimité. Le choix familial se portait également fréquemment sur un épisode de Hercule Poirot. Maud adorait la sensation de les avoir tous les quatre regroupés autour de l'écran de télévision. L'introduction de cette mignonne série déroulait ses images et son accompagnement musical. Maud se calait dans son fauteuil, elle savourait, elle avait enfin trouvé, avec Delphine, un terrain d'entente. Les goûts cinématographiques et télévisuels de la jeune fille étaient bien arrêtés. Les quelques films proposés par Maud avant le cycle Hercule Poirot n'avait pas suscité son enthousiasme. Elle trouvait les films trop longs, il ne s'y passait pas grand-chose, et, pour être honnête, précisait-elle le plus souvent après le générique de fin, elle s'était un peu ennuyée. Les intrigues logiques et rationnelles d'Hercule Poirot avaient heureusement trouvé grâce à ses yeux. Maud appréciait quant à elle le charme de leur ambiance anglo-saxonne ainsi que l'ombre de la grande romancière qui planait sur de somptueux manoirs et de verdoyants jardins. Le reste de la famille suivait sans problème. Les jours s'écoulèrent ainsi, harmonieux et structurés, après le très fugitif malaise de Maud qui ne fut probablement perçu que par elle seule. L'idéal était à portée de main, au cœur du jardin, dans une douce lumière estivale, sous une chaleur particulièrement généreuse cette année-là. Quatrième partie. Delphine. Chapitre 1. Dans les vagues. L'après-midi égrenait ses heures douces et ensoleillées dans le jardinet de la maison de pêcheur. Delphine était arrivée depuis quelques jours et Maud n'avait pas encore éprouvé la brève contrariété liée à la nonchalance supposée de Luc. Il faisait chaud, elle aurait aimé nager, mais elle n'avait pas non plus à ce moment-là trouvé la solution de la navigation qui lui permettrait de réussir, après la séance de voile, à se baigner. Elle était revenue de sa balade quotidienne avec Thibaut, qui s'était quant à lui agréablement rafraîchi dans la mer. Il avait sorti une chaise de la salle à manger et lisait le journal à l'abri du grand pin qui ombrageait le jardin. Il n'utilisait plus de chaise longue, cependant singulièrement plus confortable. Il avait déjà brisé les montants de l'une d'elles en raison de son poids qui dépassait sensiblement les normes habituelles. Il n'allait tout de même pas casser tous les meubles du jardin. Un inventaire de fin de séjour aurait lieu, la prudence s'imposait. « Je suis très bien, ne t'inquiète pas », affirmait-il à Maud, soucieuse de son bien-être. Maud ne nageait pas. Elle n'avait pas atteint l'équilibre qui lui était propre au bord de l'océan, mais elle aimait la plage. Leur superbe maisonnette, magnifiquement placée, était à deux pas de la mer, par l'intermédiaire de leur petit chemin de sable privé. Maud n'avait pas quitté Thibaut depuis le matin et tous deux pouvaient, dès lors, vaquer chacun à leurs occupations sans qu'ils aient le moins du monde le sentiment qu'ils passaient leurs vacances éloignés l'un de l'autre, séparés ou pire encore, indifférents. Thibaut l'incitait à aller sur la plage, elle pourrait se baigner ou simplement prendre du bon temps, elle observerait comme elle aimait le faire. Les estivants, les enfants et les mamans, elle humerait l'odeur de l'ambre solaire, si caractéristique de la chaleur estivale. Elle sentirait la brise sur son visage. Elle contemplerait les lumières reflétées sur la crête des vagues et les jeux des voiles sur l'océan. Elle apprécierait. Thibaut n'en doutait pas. Maud prit sa serviette et ses lunettes de bain, au cas très improbable où elle parviendrait à se baigner dans cette eau à la température si peu accueillante. Elle n'oublia ni son livre, ni son appui d'eau, et elle partit ainsi judicieusement équipée en direction de la plage. Il lui suffit de pousser le portillon de bois à claire-voie qui s'ouvrait sur le chemin longeant la grande villa située entre leur maisonnette et l'océan. Elle traversa le boulevard, puis son regard embrassa la grande plage inondée de lumière d'où jaillissaient des rires et des cris d'enfants. Elle descendait la cale en pente douce lorsqu'elle aperçut ces trois jeunes, ainsi qu'elle s'amusait à les nommer. Leurs serviettes étaient étalées côte à côte sur le sable. Luc et Romain roulaient dans les vagues. Ils s'attrapaient, disparaissaient dans les éclaboussures, puis en émergeaient, ruisselant et riant. La jeunesse était à l'œuvre. Ils retrouvaient dans les embruns et le soleil les jeux du corps de leur enfance. Ils exerçaient leurs muscles, luttaient, s'ébrouaient, tels de jeunes animaux. Luc, surtout, semblait libérer son énergie. Il plongeait, menait le combat, s'éloignait pour revenir plus fort dans la bataille. Il s'était montré si sérieux ces derniers mois alors qu'il accédait au statut d'adulte avec son ami. Il avait considérablement réduit les séances de jeux vidéo et participé à de nombreux repas de famille du côté de la famille de Delphine et aussi boulevard de Tessier. Le temps était révolu des repas servis par Maud dans sa chambre devant son ordinateur. Il avait également entamé sa vie professionnelle avec costumes, cravates, multiples entretiens avec des clients, directeurs financiers d'entreprises et consorts, avec des déjeuners d'affaires et des déplacements professionnels accompagnés par ses collègues, des consultants seniors qui l'évaluaient plutôt qu'il ne l'aidait. Il était entré chez l'Arctic Frères, l'un des premiers cabinets français de commissariat aux comptes en début d'année. La période d'essai durait 6 mois, son issue était loin d'être certaine. La légèreté désertait peu à peu son existence, et il s'engouffrait cet après-midi-là, sans réserve, dans une brèche de liberté retrouvée. Le couple des deux frères était reconstitué. Ils s'ébattaient dans l'eau, aussi à l'aise que des poissons. Ils avaient depuis toujours su nager sans prendre de cours ni fréquenter d'école de natation. Ils avaient, dès leur plus jeune âge, passé leurs vacances pour partie au bord de la mer et pour partie en Seine-et-Marne. La maison et la piscine des grands-parents paternels les y accueillaient. Ils en avaient également régulièrement profité au mois de juin et en septembre. Les week-ends étaient agréables et doux en ces périodes. L'eau était aisément chauffée par les rayons du soleil qui traversaient les parois transparentes de l'abri-piscine. Ils avaient commencé à fréquenter Kerbihan lorsque Luc avait 10 ans et avaient, les années précédentes, séjourné en Catalogne espagnole où les mêmes grands-parents possédaient un petit appartement. Ils n'avaient donc pas manqué de barboter. Pendant des heures, dans une eau d'une douceur tropicale, Maud gardait en tête le souvenir émouvant de Romain qui, à moins de 3 ans, portait un maillot une pièce. Équipée de bouées intégrées, elle nageait sur de grandes distances dans une mer parfois agitée et Romain, allongé sur son dos, ses petites mains fermement agrippées sur son bassin, avait lui aussi le sentiment de nager à travers vagues et écumes. Plus tard, ils répartirent chaque été entre la Bretagne et l'Espagne, jusqu'à l'âge de 13 ou 14 ans pour Luc. Les deux garçons, plus grands, passionnés par l'observation des poissons, nageaient pendant des heures, avec masque et tuba dans l'eau chaude de la Méditerranée. Ils avaient aussi parfois gagné les tropiques à la Toussaint quand ils ne pouvaient, à cette date, ni skier ni faire du bateau. Crawl, brasse, plongeon et autres performances aquatiques avaient alors constitué l'essentiel de leurs loisirs. Luc et Romain avaient pris contact avec l'eau très jeunes. Dans la piscine de Champs-les-Vignes, poussée par le plaisir naturellement et spontanément. Être dans l'eau avait fait partie, sans effort ni démarche volontaire, de leur mode d'être au monde. Maud avait par ailleurs ajouté une autre contribution à leur intimité aquatique, du temps où ils étaient à l'école primaire, puis au collège. Elle travaillait alors chez Réseau Télécom, mais elle demandait, le mercredi, à sa mère, ou bien à la jeune fille qui les gardait, de les accompagner à la piscine du 12e arrondissement. Le samedi, elle-même s'en chargeait. Et là-bas, dans les grands bassins de la piscine André Le Goff, ils multipliaient les longueurs, ils étaient chronométrés et s'exerçaient à la compétition. Ils suivaient l'entraînement avec des enfants de leur âge. L'ambiance était bonne. Être dans l'eau avec d'autres jeunes s'avérait parfaitement réjouissant, même si les poussées en début d'après-midi à quitter le confort de leur jeu étaient loin d'être de tout repos. Les deux garçons ne pouvaient à cette époque que suivre les programmes définis par leur mère. Maud avait pleinement profité de cette opportunité éminemment favorable du point de vue de l'éducation. Luc et Romain se retrouvaient cet après-midi-là. Ils renouaient avec leurs habitudes. Ils se détendaient, à la différence près, qu'ils étaient 3, et non plus 2. Delphine était près d'eux, dans l'eau, jusqu'à mi-taille, et elle les regardait. Elle avait grandi à Bobigny dans un petit appartement où sa mère faisait office de gardienne. Son père était salariée boucher. Elle avait habité la même chambre que ses frères. Ses parents ne prenaient pas de vacances et avaient l'habitude d'envoyer leurs enfants chez les grands-parents qui avaient une ferme en Normandie. Delphine et ses deux frères avaient vécu heureux là-bas avec leurs cousins, au milieu des bottes de paille et dans les champs. Elle adorait les souvenirs de sa campagne. Elle y retournait souvent le week-end avec ses parents. Elle était une terrienne et elle découvrait cet été-là, en 2015, les vacances au bord de la mer. Elle ne savait pas nager. Lorsqu'elle avait rencontré Luc, il avait commencé à le lui apprendre dans la piscine à l'occasion des quelques week-ends passés à Champs-les-Vignes. Elle avait fait de grands progrès à son arrivée à Kerbihan. Elle ne pouvait cependant être à l'aise comme les deux frères. Elle ne pouvait nager avec plaisir en plongeant la tête sous l'eau, une façon de respirer qui permet d'apprécier vraiment l'élément marin, de faire corps avec lui. Maud arrivait sur la plage. Elle aperçut sa quasi-belle-fille tournée vers Luc, en retrait, spectatrice, et pourtant dans son cercle, dans sa périphérie, son aura. Elle n'avait pas envie de le quitter, pas envie d'être ailleurs, même s'il était avec son frère. Elle désirait rester près de lui. Maud avait le sentiment de percevoir l'amour que Delphine lui portait. Elle était émue, attendrie par cette petite jeune fille qui regardait son fils. Chapitre 2. Sur la plage. La légère baisse de morale de Maud, née de son fantasme voilier qu'elle avait cristallisé sur Luc, n'avait pas duré plus d'une journée. Après ce passage à vide, rapidement surmonté par sa réaction précisément d'ordre voilier, Maud connut de douces et tranquilles journées sur le plaisant rivage de Kerbihan face aux îles d'Oate et de Dick. La vie était facile, réglée comme du papier à musique, harmonieuse, sans contrainte ni contrariété, pour peu toutefois que chacun, en l'occurrence Maud au premier chef, se garde bien de les créer par soi-même de toutes pièces. Les jours auraient pu s'écouler ainsi longtemps dans ce territoire qui confinait au bonheur ou au paradis tel que Maud, du moins, pouvait le concevoir. La durée des vacances était cependant limitée. Elle atteignait les 3 semaines et même moins. Si l'on excluait les week-ends de début et de fin de séjour, ils étaient arrivés un dimanche après-midi, ils repartaient un vendredi soir, cette dernière journée était consacrée aux bagages et aux rangements, ils profitaient donc bien plutôt de 17 jours dans ces conditions exceptionnelles, une durée tout compte fait assez brève par comparaison au reste de l'année passée à Paris. Si l'ambiance demeurait plaisante et chaleureuse, la perfection se trouvait belle et bien à portée de main. Il suffisait alors que Maud rencontre sur son chemin quelque minuscule événement favorable pour que la joie qui l'habitait devienne encore plus sensible. Tel fut le cas. En une belle fin d'après-midi, où elle rentrait de sa balade quotidienne avec Thibault, elle retrouvait le groupe des jeunes, qui étaient eux aussi de retour de leur péripétie du jour. « Ça va ?» demandèrent les adultes. « Oui, très bien, » répondirent les jeunes. « Vous avez fait quoi ? On a marché, on s'est baigné, on a fait de la plage, et on s'est baladé dans le centre de Kerbihan. »« Ah oui ?» fut le commentaire enthousiaste de Maud. « Et qu'est-ce qu'il y a là, par terre ? » ajouta-t-elle, apercevant des objets colorés sur l'herbe dans le jardin. « Oh ça, » répondit Romain, « c'est Luc. Il a eu une drôle d'idée, il a acheté des boules en plastique et des raquettes avec des balles pour la plage. »« C'est bien, il a eu raison, » répliqua Maud, qui se mit alors à imaginer que ces 3 jeunes resteraient encore moins longtemps sur leur canapé lieu de détente qu'ils adoptaient, si l'on y prêtait un tant soit peu attention, relativement volontiers, en dépit de leurs diverses et multiples activités extérieures. Leurs récentes acquisitions ludiques, sous la forme de jeux de pétanque et de raquettes, auraient sans doute tendance à limiter ce temps passé sur le dit canapé. Maud se réjouissait immanquablement, dès lors qu'ils abandonnaient le confort de ce type de siège, quelles que soient par ailleurs les activités choisies, qu'il s'agisse de galops effrénés à bord d'un dériveur et lancés sur une mer agitée, de natation, de bicyclette, de marche à pied, ou de pétanque avec boules en plastique, ou encore de jeux de raquettes, tels que Maud les avait si souvent observés sur la plage, les petites balles voltigeant d'une raquette à l'autre, au milieu des châteaux de sable et au son des tapotements secs et réguliers qui rythmaient chacun des envois. « C'est super !» avait commenté Maud. « Vraiment, quelle bonne idée !» Elle avait découvert les boules et les raquettes sous le vieux pin du jardin et sa bonne humeur, déjà établie, avait gagné en intensité. Ils dînèrent, puis vint le moment où leur activité du soir à cinq dut être définie. Cet instant engendrait souvent une certaine hésitation. Il fallait décider, quelqu'un devait proposer. Ce n'était pas toujours simple. Maud saisit l'occasion au vol, elle proposa la pétanque sur la plage. Il suffisait d'y aller, de traverser le boulevard. Mais elle ne fut pas assez rapide. Ils ne partirent tous les six, en compagnie du joyeux coquère de la famille, qu'après qu'elle eut terminé de débarrasser la table et d'emplir le lave-vaisselle. Ils passèrent le portillon, l'ombre du soir obscurcissait déjà l'étroit chemin longeant la haute et grande villa devant leur maisonnette, ils traversèrent le boulevard de la plage désert à 7 heures, puis atteignirent le sable mouillé qui s'étendait loin sur la plage à l'heure de la marée basse. Maud avait pris les boules, mais le projet n'était plus envisageable. La nuit était trop noire. « Qu'à cela ne tienne !» s'exclama-t-elle avec enthousiasme. Des groupes de promeneurs arpentaient de loin en loin la vaste étendue de sable sous un ciel piqueté d'étoiles. Le chien, heureux, avec le père, la mère et les trois jeunes, s'offrait de fulgurantes accélérations et Maud proposa, puisqu'il ne pouvait pas jouer, qu'ils imitent les promeneurs alentour. Elle emporta, comme on peut s'en douter, aisément la décision et ils commencèrent leur balade. Maud marchait avec Thibault. Le chien et les jeunes gens les devançaient. Maud les regardait. Luc et Romain étaient en tête. Ils bavardaient. De même qu'elle les avait vus pendant des années s'amuser à se battre dans l'eau ou sur la terre comme de jeunes chiots jouant avec leur corps, elle les avait vus également dans le passé tenir de longues conversations. Le spectacle de leurs interminables discussions lors des derniers étés à Kerbihan l'avait empli de joie.